Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Monsieur le professeur, je vous dis merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour et bienvenue sur Clap, l'émission du cinéma...
Qui s'écoute.
Et donc, pour ce mois de décembre, on continue notre cycle autour du court-métrage avec deux émissions consacrées à la production et à la diffusion de courts-métrages.
Voilà, donc autour de la table, on est tous les quatre. Il y a donc Hugo Bonjour. Et moi-même qui allons présenter cette émission. Et nous sommes avec nos chers invités, Manon et Morane.
Bonjour. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites ?
Alors, moi, je m'appelle Morane, je fais de la production audiovisuelle, je travaille dans une société qui s'appelle Le Local Production à Toulouse, et je suis également investie dans une association qui s'appelle Séquence Court-Métrage, qui organise le festival qui arrive bientôt en novembre. Et voilà !
Et on est au mois de décembre ! Donc moi je m'appelle Manon, je suis aussi dans l'association Séquence Court-Métrage et j'aime aussi le long-métrage, je travaille à l'American Cosmographe à Toulouse, avec une grosse passion pour le court-métrage quand même, encore plus que le long.
Très bien.
Alors pour commencer, on voulait parler plus de la production. Dans les dernières émissions, on a discuté de l'écriture du court-métrage, ce que ça impliquait par rapport au long-métrage et on a rencontré des réalisateurs de courts-métrages qui ont expliqué pourquoi ils faisaient ça, qu'est-ce qui les intéressait dans ce format. C'est quoi le rôle d'un producteur de courts-métrages en France ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il s'insère en fait dans la chaîne de création d'un film ?
Alors, c'est une vaste question parce qu'il y a beaucoup de producteurs déjà. Et donc beaucoup de manières de produire, et qu'il n'y a pas une seule manière de produire. Et un peu comme aussi dans le long métrage ou la télé, ou enfin dans d'autres formats, le producteur il a plusieurs casquettes. Il va avoir, il va être responsable de la bonne fin du film, c'est la définition d'un producteur. Donc il va être faire en sorte que le film se fasse. Donc en général, il y a un projet qui lui arrive, ou alors il va chercher un projet et une fois qu'il s'engage sur ce projet d'un auteur-réalisateur, il va sécuriser, on va dire, le financement du film, donc faire en sorte de trouver tous les financements, faire un budget, etc., et trouver les financements pour faire le film. Et ensuite, aller par toutes les étapes de la production du film. Donc ça va commencer dès l'écriture, en fait, dans un travail de collaboration avec le réalisateur, et ensuite dans la préparation du tournage, le tournage, etc., jusqu'à la post-production. Donc y a à la fois tout un aspect très financier, administratif, juridique également, parce que c'est lui qui va engager toute une équipe et donc qui va faire des contrats, qui va lier des contrats avec des diffuseurs, enfin bref, voilà, tous ces aspects-là. Et aussi, pour beaucoup de producteurs, il y a une facette d'accompagnement artistique et donc qui va être le premier regard, on va dire, après celui du porteur de projet, du réalisateur, de l'auteur, sur un projet, et du coup, qui va donner son avis, discuter, et voilà. Donc, il y a beaucoup de facettes différentes, et avec toutes ces facettes-là, il y a aussi beaucoup de manières de travailler différentes. On ne peut pas définir peut-être une seule manière de produire, c'est un peu difficile. Et ensuite, particulièrement sur le court-métrage, puisqu'on va parler d'économie, l'économie du court-métrage, c'est très vaste aussi, parce que ça va de projets qui se font avec des bouts de ficelle, avec vraiment pas grand-chose, à des projets qui peuvent être très bien financés et très bien produits, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que les projets sans sous ne sont pas bien produits, mais voilà, il y a beaucoup de cas de figure différents aussi, et dans l'ensemble, il y a quand même peu de financement. Donc, dans l'ensemble, il y a aussi beaucoup de films qui se font avec beaucoup de bonne volonté.
Et je ne sais pas si tu avais une question. Non. Ce que je me demandais, moi, par rapport à la dernière fois, émission avec les réalisateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens Il y en avait qui avaient la passion du court-métrage, il y en avait beaucoup qui avaient comme but de vouloir faire des longs, que ce soit en documentaire ou en fiction, et qui étaient amenés vers le court parce que c'était plus simple d'arriver à le faire en trouvant un producteur, justement, ou en le faisant avec des bouts de ficelle comme ils pouvaient, comme si le court pouvait servir un peu de tremplin, entre guillemets, pour leur permettre plus tard de faire du long.
Non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment une réalité pour faire du long métrage. Je crois qu'il faut quasiment obligatoirement passer par du court métrage avant, à moins d'être déjà connu dans un autre milieu artistique pour autre chose, etc. Mais il faut faire ses preuves en court métrage avant de passer au long, souvent. Et ça vaut autant pour les réalisateurs que souvent que pour les producteurs aussi. Donc d'avoir, il y a beaucoup de jeunes structures de production qui commencent par du court-métrage, qui vont aussi de cette manière-là nouer une relation aussi artistique avec un auteur et qui vont certainement derrière mettre en place une stratégie de faire peut-être un, deux court-métrages avec cet auteur et réalisateur et pour pouvoir ensuite être identifié dans les festivals, identifié par des prix, et prouver aussi que voilà qu'ils peuvent monter un projet et pour pouvoir ensuite accéder au marché du long métrage. C'est pas systématique, mais c'est quand même une réalité.
Oui, quand ça se retrouve aussi côté producteur, ce rapport-là.
Il y a aussi des réalisateurs qui ne font jamais de long métrage et qui font que du court métrage. C'est important de le souligner, il y en a très peu parce qu'on ne les connaît pas. mais voilà, il y en a qui, au bout d'un moment, ont envie de faire un long et qui le font, mais qui reviennent aussi avec grand plaisir au court métrage parce que c'est une démarche qui est complètement différente d'écriture, de financement, mais il y a aussi une plus grande. Peut-être une plus grande liberté.
Oui, que c'est un format avec une écriture à part entière. Ouais. Donc, quand je pense qu'on s'amuse dans cette écriture-là, certainement, on a envie de la creuser, de la développer. Après, c'est vrai que il y a des sociétés de production qui font uniquement du court-métrage, mais c'est souvent, elles ont un modèle financier qui vit aussi d'autres choses, parce que c'est compliqué financièrement de faire vivre une structure seulement sur du court-métrage. Mais par contre, il y a aussi des producteurs qui, même avec beaucoup d'expérience, vont continuer à faire du court-métrage aussi pour découvrir des nouveaux talents, parce que c'est quand même une manière pour les producteurs aussi de tester aussi une relation avec un jeune auteur, un premier film, de tester aussi des choses. C'est un format qui... On ne peut pas le réduire à un galop d'essai avant un long métrage, parce que c'est pas que ça, c'est beaucoup beaucoup de choses, c'est très très riche et qu'il y a énormément de choses sous le mot court métrage, mais par contre c'est une réalité.
Et comment on finance alors un court métrage, d'où ça vient, comment ça se fabrique, parce que justement s'il y a tout ce truc là où finalement il y a beaucoup de films qui sont des tests, mais qui sont pas forcément amenés à avoir une grande diffusion parce que c'est plutôt une rencontre entre un producteur et un réalisateur ou les débuts d'un producteur ou d'un réalisateur. Comment on monte ces projets-là ?
Alors, je parlais surtout de la France, mais c'est un peu différent à l'international. Mais c'est un financement qui... En France, c'est calqué sur d'autres types de financements. C'est que d'un côté, on a la diffusion et de l'autre côté, on a des financements publics. Donc, y a le truc en court-métrage, c'est qu'il y a très, très peu de diffuseurs. Pour la télévision, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, il y a Arte, France Télévisions. Et après, il y a Canal+ qui produit un peu aussi de courts-métrages, mais ils ont même s'ils ont des moyens à mettre dans le court-métrage, par rapport au nombre de producteurs et au nombre de projets, il y en a très peu. Après, il y a aussi des diffuseurs maintenant de toutes les chaînes OCS qui a investi dans du court-métrage. Il y a des chaînes thématiques qui vont faire du court-métrage, mais pareil, il y en a très peu. Et ensuite, on a... des plateformes web aussi qui vont petit à petit mettre du budget dans du court-métrage. Mais voilà, tout ça, ça reste au niveau de la diffusion très réduit. Des distributeurs cinéma, n'en parlons pas, parce que ça existe, des distributeurs qui distribuent du court-métrage, mais qui vont distribuer des programmes. Souvent, c'est plutôt des programmes jeunes publics. Mmh. Manon, peut-être, tu peux... Mais voilà, on ne peut pas monter un financement cinéma sur du court-métrage au sens d'aller chercher un distributeur comme on le ferait en long-métrage. Donc voilà, déjà ça fait quelques diffuseurs, mais peu. Et ensuite, donc il y a des diffuseurs aussi à l'international qu'on peut aller chercher. Et ensuite, le système de financement français de subventions publiques, donc le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, les régions qui sont très sollicitées pour le financement court-métrage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre ? On peut aller chercher des aides plus spécifiques sur la création de musique originale, par exemple. Je fais un peu le tour, mais je crois qu'on arrive vite. Il n'y a pas tant d'options que ça. Et donc, il va y avoir des projets. Bah, par exemple, si on a un projet avec Arte, de région, le CNC, tout de suite, ça fait un budget qui peut être assez conséquent à l'échelle du court-métrage. Hein. mais voilà, et comme il y a beaucoup de concurrence, c'est très difficile d'avoir ces financements. Souvent, ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir des dossiers très, très, très écrits, notamment ce qu'on appelle l'aide à la contribution financière au CNC, qui est une des seules aides au court-métrage, qui est extrêmement difficile à obtenir. Donc voilà, c'est beaucoup de temps et il faut beaucoup travailler. Donc souvent... De fait, les films se font aussi sur des fonds propres ou dans une économie qui est très faible. Quoi.
Et c'est les régions ?
Ouais, j'en ai parlé. Ah,
oui.
Mmh.
Oui, du coup, le modèle économique du court-métrage a du mal à être viable sans subvention en fait, de public, quoi. On a du mal à équilibrer financièrement un film s'il n'y a pas, à un moment donné, une aide financière de l'État derrière.
Oui, et puis même, c'est souvent financé quasiment que par ça.
Ouais. Et comment ça se fait, ça ? Est-ce que c'est un manque d'intérêt du public pour le court-métrage ou est-ce que c'est une vision des moyens de diffusion qui ne sont pas mis en place pour que le court-métrage puisse rencontrer son public ? Est-ce que vous en réfléchissez un peu ? Vous avez des idées là-dedans ?
C'est compliqué comme question, je trouve, parce que je pense que c'est un mélange des deux. Enfin, je pense qu'il y a quand même un intérêt du public, parce qu'il y a quand même énormément de festivals. Voilà, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui diffusent, mais dans chaque département, il y a quasiment dans chaque département en France des festivals qui ont plus ou moins de notoriété. Et depuis quelques années, il y a la fête du court-métrage aussi au niveau national qui prend de plus en plus d'ampleur. Et surtout depuis l'année dernière, où le CNC a investi quand même pas mal d'argent avec l'agence du court-métrage pour que ce soit diffusé partout, dans plein d'endroits très variés. Et donc je pense que c'est aussi des choix des institutions et des structures quoi, de redistribuer l'argent, mais comme pour tout. Et effectivement, ça passe pas en premier, alors qu'on le disait... C'est pourtant ce qu'on fait d'abord, même si on veut ensuite faire du long métrage et tout ça. Enfin, donc c'est dommage. Mais...
Je pense que le grand public est assez peu sensibilisé au court métrage. Peut-être de plus en plus, parce que maintenant on a des formats courts sur le web et qui sont de plus en plus regardés, mais qui sont dans le contenu quand même assez différent de ce qu'on peut voir en court métrage. Tout ce qui est série web, tout ce qui est. Les contenus de blogueurs, etc., qui se développent énormément et avec des nouvelles écritures, avec des choses qui sont hyper intéressantes. Mais à l'origine, le format court est peu connu du grand public, même le public des festivals, même s'il est... Il y en a beaucoup en France, mais finalement, je pense que c'est un public qui est assez restreint.
Complètement.
Et par rapport à la télé, en fait, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui les courts-métrages, c'est des ovnis, en fait. Ils n'ont pas du tout l'habitude de voir ça. Et il y a Même nous, on voit sur le festival des premiers spectateurs, premiers au sens où qui viennent pour la première fois d'en voir un programme de court-métrage, c'est quand même assez étonnant, en fait, comme pratique de entre guillemets, consommation d'une œuvre. Enfin, c'est...
Mais enfin, là, je voyais, au moment de promouvoir la 27e édition du festival, je mettais des flyers et des marque-pages en caisse du cinéma, et les gens souvent disent « Ah, c'est quoi ? Ah, du court-métrage ? Ah oui, non, j'aime pas le court-métrage. » Mais souvent, effectivement, ils en ont jamais vu, ou jamais vu de programme. Ils ont une vision assez stéréotypée aussi du format court, donc un film à chute, principalement. Du mal à concevoir qu'on puisse développer des idées, une histoire, un propos aussi. Et voilà, souvent, c'est trop court, pas le temps de se mettre dans un film. Il y a une spectatrice, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Ah non, moi, j'aime que les films longs. » Et effectivement, elle venait voir un film de 3h20. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'en spectatrice, bah, j'ai beaucoup de mal à voir des films longs. Même, je vais régulièrement faire le choix de ne pas y aller, en fait, parce que c'est trop long. Alors, il y a des films magnifiques qui durent longtemps. Hein. Je ne vais pas faire le contre-pied... par rapport aux gens qui n'aiment pas le court-métrage, dire « je n'aime pas les films très longs ». Mais voilà, c'est aussi une curiosité à avoir, comme quand on décide d'aller au cinéma, quoi, de chercher à voir des films d'autres pays, d'aller voir des films qui abordent des sujets qu'on connaît assez peu. Enfin, je pense que c'est une vraie curiosité de spectateur d'aller voir du court-métrage.
Je pense qu'on prend peut-être plus de risques quand on va voir du court-métrage, entre guillemets, en tant que spectateur, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses différentes. On ne sait pas trop forcément à quoi s'attendre. Alors que lire un synopsis dans un programme cinéma ou reconnaître un nom de réalisateur ou peut-être ou sur un programme télé, lire un... Enfin, à la télé, les courts-métrages, ils sont diffusés à des heures improbables. Donc, il y a peu de spectateurs. Les chaînes de télévision investissent au sens finance des courts-métrages, mais je pense que c'est beaucoup pour entretenir une image aussi de leur chaîne, une image de marque, et pour montrer qu'ils produisent, qu'ils financent aussi de la création et qu'ils financent aussi de la création qui est plus à risque, etc. Mais finalement, la chaîne de télévision, je pense que l'audience du court-métrage représente vraiment pas grand-chose dans leur modèle financier.
Tu parlais de risque quand on était spectateur de court-métrage. C'était un peu ma question là, en tant que producteur, productrice de court-métrage. Est-ce que vous avez tendance à prendre plus de risques que pour du long, en sachant que c'est des budgets plus faibles et que prendre plus de risques sur le format, sur le ton, sur la mise en œuvre des films? Est-ce qu'il y a plus de liberté, en tout cas, quand on produit un court-métrage que quand on en produit un long?
Alors, moi, je travaille pas du tout sur du long-métrage, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus, mais par contre, c'est clair que sur du court-métrage, oui, t'as une grande liberté. Après, il y a la question de savoir comment tu vas pouvoir trouver du financement et du coup, comment tu vas vendre ton projet, quand même, pour essayer quand même de trouver du financement. Mais sur l'écriture, c'est clair que tu vas, par exemple, par rapport à du documentaire, où là, immédiatement, tu vas penser à comment... toujours pareil, pour trouver du financement, vers qui, quel diffuseur tu vas pouvoir te tourner, etc. Dans quelle case ça pourrait rentrer, enfin voilà, ce genre de réflexion qu'on peut avoir quand on se demande si on va produire ou pas un film. Là, au niveau du court-métrage, c'est justement l'intérêt, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Et ça va avec le fait de ne pas avoir de sous, souvent. Mais en même temps, c'est ça qui est très jouissif, et c'est qu'on a envie d'accompagner quelqu'un dans sa folie. Après, il y a des scénarios de court-métrage qui sont aussi très classiques, mais qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas trop de règles. Après, au niveau du risque, je ne sais pas si tu entendais au sens du risque financier.
Non, mais juste... d'une certaine manière, oui. Mais c'est vrai que vu que c'est pas des... Si c'est sur une base de subvention publique, le risque financier est moindre. À partir du moment où la subvention est donnée, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de...
De toute façon, on va, comme n'importe quel projet, on va gérer un budget au fur et à mesure comme il avance. Et en général, le risque sur les projets, c'est quand dès le départ, tu vas devoir sortir du financement sur tes fonds propres sans savoir si tu vas pouvoir faire le film ou pas, si tu vas trouver les financements pour faire le film ou pas. Sur du court-métrage, il y a un peu ce truc où on se dit, on le fera quoi qu'il arrive, mais avec les moyens qu'on a, donc tu y vas aussi. Ça dépend, je parle vraiment encore sur... Il y a tellement de modèles de production, il y a des producteurs qui réfléchiront jamais comme ça, mais souvent il y a aussi ce côté de... S'il faut le faire avec des bouts de ficelle, on le fera avec des bouts de ficelle, mais du coup, on avance tous ensemble dans une barque, on va dire, et on va trouver des solutions.
Pour les spectateurs, il y a quand même assez peu de risques, j'y reviens, mais... Voilà, enfin, si le film nous plaît pas trop, y en a un qui arrive juste après, en fait. Donc, on peut se remettre dans la séance.
Et puis en festival de court-métrage.
Et continuer d'être surpris aussi, quoi.
Festival de court-métrage, si on a lu le programme avant, on sait que celui-là il dure 20 minutes et qu'au bout de 5 minutes, on peut très bien se faire une petite sieste.
Tout à fait.
Pour mieux voir les autres.
Voilà. Et d'ailleurs, on comprend le film d'après quand même.
C'est ça. Et en parlant de sieste, c'est ce qui va se passer là. On va s'arrêter pour 2 semaines. Et on va reprendre la discussion dans 2 semaines. Autour de, du coup, toujours production et diffusion de courts-métrages avec les mêmes invités, dans la même situation, mais dans 2 semaines.
Dans le même salon.
Quelle faille, ce
voilà, merci de votre écoute. On remercie Aurel à la technique.
Merci Aurel à la technique.
Manon et Morane qui sont venus nous parler.
Et Raphaël. Merci. Et maintenant, nous allons vous diffuser les actualités du mois de décembre, ainsi qu'une petite
pièce radiophonique.
Voilà.
Croustillante.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'agenda de Clap. Pour les 2 semaines à venir, nous avons 2 événements audiovisuels à vous conseiller. Alors pour commencer, le premier et pas des moindres, c'est la reprise des Kinobouffes à la Chapelle qui auront lieu demain jeudi 6 décembre. Donc pour rappel, les Kinobouffes, c'est une projection de court-métrage accompagnée d'un repas. Et une reprise tout en douceur puisque le thème pour cette session, ce sera « Ramène ton plaid » du coup qui correspond bien avec ce petit début d'hiver que nous connaissons. Et une programmation plutôt orientée dessin animé, donc n'hésitez pas à venir en profiter. Ça se déroule demain à partir de 19h à la Chapelle au 36 rue Daniel Casanova. L'entrée est à prix libre pour profiter des courts-métrages et de 5€ si vous souhaitez profiter du repas. Pour continuer ce mois de décembre, la Cinémathèque nous propose une soirée assez mystérieuse autour de Brian De Palma. Alors je vais vous partager la présentation qu'ils en font eux-mêmes. Un certain Brian, jeune cinéphile américain, originaire du New Jersey, aurait eu le visage brûlé en manipulant chez lui une bobine de film nitrate achetée aux puces. Sa fiancée, Margot, alors à ses côtés, aurait tragiquement perdu la vie lors de l'incendie. Inconsolable et défiguré, Brian, pris de pulsion, aurait trouvé un refuge dans les recoins sombres d'un hangar du Vernet, en périphérie toulousaine, abritant alors une partie des collections de la Cinémathèque. On aurait vu à plusieurs reprises sa silhouette, une nuit de pleine lune en 2003, se dirigeait du centre-ville vers Balma et le centre de conservation, et depuis, au dire de toute l'équipe de la Cinémathèque, des bobines seraient déplacées la nuit, des bruits bizarres se feraient entendre, les tables de visionnement, pourtant éteintes la veille, seraient allumées le matin, et plus étrange encore, sur les murs seraient régulièrement punaisées des feuilles avec des recommandations de programmation très précises. Signé Brian De Palma. Alors on n'en sait pas beaucoup plus sur cette soirée, à part que ça sera une présentation de courts-métrages, de bandes-annonces, de publicités et autres documents cinématographiques au genre parfois indéfini. Donc pour les curieux, ça se passe vendredi 14 décembre à 21h à la Cinémathèque de Toulouse, rue du Thor. Et on va se quitter avec nos chers Boubo et Raph qui nous emmènent partager un petit moment en mer.
Ma fort cap CP, c'est ma fort cap CP de Chocholosa. Chocholosa pour essai radio à vous.
Station pour la vigie CP Fort et Claire, monsieur Fort et
Claire. Ok, merci. Bon car, terminé.
T'as des gars qui naviguent pour fuir quelque chose. T'as des types qui naviguent pour le plaisir de s'en prendre plein la gueule, j'en ai connu. T'as des types qui naviguent pour le plaisir des escales, t'as des types qui naviguent pour tout un tas de trucs. Moi je navigue pour aller rencontrer des gens.
C'est parti, AIC.
Allez.
Ce sera bien quand tu vas pas obligé d'empanner tout de suite.
Ah ouais. De toute façon, si on passe au large juste ici, on s'en va pas plus mal. Hein.
Ouais, ouais.
Qu'il y a à manger en dessous là, non?
Bah, ouais. Ça a l'air d'être le repas là.
Ouais, c'est l'heure, hein?
Ah, regarde les goélands, comment ils y vont là?
La première grande trouille que j'ai chopée, j'avais 22 ans, quoi. Donc c'est avant-hier, quoi, on va dire. Je me suis ramassé un coup de mistral, la barre a cassé. On a dérivé 2 jours de nuit avec mon meilleur ami et mon petit frère. Et on est passé, moi je suis passé une fois à l'eau. La barre était cassée, les vagues étaient aussi hautes que le mât. Donc quand je dis que c'est au pied du mur qu'on voit le gars, je suis content d'avoir vécu ça avec mon meilleur ami et mon petit frère. Je suis sûr aujourd'hui que, et je savais déjà à l'époque, il y a plus de 30 ans, que je m'étais pas bourré d'amis, quoi. Parce que toute une nuit, le dos aux vagues, le bateau travers à la lame, avec t'entends les vagues qui arrivent, les déferlantes qui vont passer par-dessus le bateau, tu te dis on va crever, quoi. Moi je me suis dit on va crever. Et avec mon pote Thierry, on s'est dit la même chose, quoi. Donc ouais, moi je sais aujourd'hui qui est ce gars-là, quoi, c'est mon ami. Y a pas de doute, quoi. Moi je recommande à tout le monde, quand il rencontre quelqu'un, d'aller naviguer avec, ils vont gagner du temps, quoi. Si l'histoire elle tiendra vite, elle tiendra longtemps. Et puis si elle doit casser, elle va casser tout de suite, c'est du temps de gagner, quoi. Faut se barrer en mer avec la personne qu'on aime, quoi. Sinon on ne sait pas à qui on a affaire.
Ah, hésite pas à le faire encore, hein. Pas tant que ça, hein. Non, non.
Quand tu es en plein océan, tu peux pas faire le 15. C'est forcément un marin dans le coin qui va se dérouter et qui le fera. Parce que ça, c'est une règle qui est au-delà de toutes les lois, quoi. Il se déroutera et il viendra te filer un coup de main, quoi. Parce que voilà. T'as même pas d'excuses. Voilà. C'est comme ça. Moi, je trouve que voilà, moi, c'est ce que j'ai appris en mer, quoi. J'ai appris à être lent, la plupart du temps, et hyper rapide quand il fallait. Mais donc lent, c'est-à-dire que tu arrives, la terre, c'est d'abord un petit point, et puis ça se précise, et puis tu as le temps de fantasmer sur l'escale. La dernière fois, on est arrivé à Fernando da Noronha, qui est un archipel au large du Brésil. Et ben voilà, quoi, au départ... C'est pas grand chose, tu devines la terre, puis après ça commence à grossir, et puis tu peux même te dire que aussi sur l'île, bah, ils voient la même chose. Au départ c'est un truc qui pourrait ressembler à un bateau, et puis ça ressemble à un bateau, et puis c'est un bateau, et puis il y a un bateau qui arrive, et puis chacun de notre côté on fantasme sur qui on va rencontrer. Donc ouais, moi j'ai senti la mer, à chaque fois je sens la terre, quelques heures avant de la voir. Et ça c'est hyper magique. T'as l'impression que t'es vachement malin, mais non, t'es pas malin, quoi. C'est juste que t'es équipé pour et on l'avait oublié.
Chocholosa, réalisé par Mathilde Spargano, assisté de Raphaël Jourdain, avec Michel et Michel.
You ever been to Hollywood?
All right, let's get some pictures.
I love you.
I think it's about time you heard these recordings.
Allons, silence!
Clap. Le cinéma qui s'écoute.